Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Be Life Talk. On est une nouvelle fois en compagnie de Laurence Lins, directrice scientifique chez Be Life, docteur en sciences biochimiques et nutrithérapeute. Bonjour Laurence.
Bonjour Alexandra.
Et pour ce sixième épisode, on va aborder ensemble un sujet particulièrement tendance pour le moment, à savoir la détox. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
La détox est effectivement quelque chose qui est très à la mode, très en vogue depuis quelques années, mais qui est aussi controversé d'un point de vue médical. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une cure détox ? Eh bien, une cure détox sous-entend que l'on va prendre des plantes ou que l'on va avoir un régime particulier qui va nous permettre de mieux éliminer les toxines à certaines périodes de l'année, et donc forcément au printemps et à l'automne par exemple.
Et généralement, ce qu'on entend aussi, c'est qu'une cure détox, ça permet de perdre du poids.
Il faut savoir que le foie est l'organe principal qui va détoxifier notre corps. C'est une usine chimique et donc son bon fonctionnement est évidemment lié à l'élimination des toxines. Et donc c'est complètement du bon sens de se dire qu'au sortir de l'hiver où on a accumulé des toxines, des graisses, où on a fait moins d'exercice physique, eh bien c'est vraiment du bon sens de dire « Ok, maintenant… »
On se nettoie.
Voilà, je vais soutenir l'activité de mon foie et je vais aider mon corps à se nettoyer. Donc, ce soutien au foie va permettre de retrouver une énergie plus importante. En médecine chinoise, le printemps, c'est le moment où on va retrouver son énergie vitale. Donc ça, il n'y a aucun souci. Je pense qu'on peut très facilement comprendre ce concept. Par contre, lorsqu'on dit qu'une cure détox va permettre de perdre du poids, là, c'est plutôt de la publicité mensongère.
Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui démontrent l'efficacité de la détox ?
Il y a des publications scientifiques qui montrent que certaines plantes peuvent aider à soutenir le fonctionnement du foie. Je pense par exemple à l'artichaut, au curcuma, au chardon-marie, et aussi à certaines plantes qui vont contenir des molécules soufrées. Je pense particulièrement à la famille des crucifères, donc qui contient les radis, donc le radis noir est connu pour soutenir la détox, mais aussi les choux, donc comme le brocoli. Évidemment, là, il y a des preuves scientifiques, que ce soit au niveau vraiment de la compréhension de comment ces molécules peuvent agir, mais aussi d'études cliniques qui montrent que le foie est en meilleure santé, enfin qu'on soutient le foie grâce à ces plantes. Par contre, si on parle d'une cure détox, là, il n'y a pas vraiment d'articles scientifiques qui montrent qu'il y a une réelle efficacité. Donc, on peut se baser sur les plantes, mais moi, je ne peux pas dire que la cure détox est prouvée scientifiquement.
Du coup, ça se rapporte à la personne plutôt ? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a besoin d'une cure détox ?
Comme je l'ai dit déjà, on sort de l'hiver, donc quasi tout le monde aura besoin de faire un petit nettoyage, alors plus ou moins important, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Par exemple, la prise de poids est un des signes qu'on a peut-être besoin de faire une petite cure détox. Les problèmes de peau aussi, puisqu'en fait, tous ces organes qui éliminent, qu'on appelle les organes émonctoires, sont liés. Donc la peau et le foie sont des organes qui sont liés. Donc si le foie fonctionne moins bien, eh bien on peut avoir des problèmes de peau, que ce soit une éruption cutanée ou que ce soit des rougeurs de peau ou la sécheresse de peau. C'est lié au fonctionnement du foie. On peut aussi avoir des maux de tête, donc des problèmes de concentration, des troubles du sommeil. Ça, c'est vraiment aussi une caractéristique importante, puisque à nouveau en médecine chinoise, on sait que le foie va fonctionner entre 3 et 5 heures du matin. Donc si le foie dysfonctionne ou fonctionne de trop ou fonctionne mal, eh bien on va avoir des réveils nocturnes à ce moment-là, donc entre 3 et 5 heures du matin. Donc si on a ça, eh bien on peut peut-être penser à faire une petite cure détox.
Et il y a aussi des effets spécifiques aux personnes de sexe féminin.
Les femmes peuvent aussi avoir des inconforts au niveau de leur cycle menstruel, puisque le foie est l'organe principal pour éliminer les œstrogènes. Donc si le foie fonctionne moins bien, en fait, on est en hyper-œstrogénisme et à ce moment-là, on peut avoir des symptômes de type syndrome prémenstruel. Donc voilà, chez la femme, on est parfois un peu plus sensible aussi.
Est-ce qu'il y a des risques avec la détox ?
Il y a des risques, puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relarguer de manière plus importante des toxines dans notre organisme, donc que ce soit au niveau des intestins ou au niveau des reins, par exemple. Donc, quand on commence une cure détox et si on n'a pas l'habitude de faire une cure détox, eh bien, on peut avoir des inconforts donc, qui peuvent être vraiment, vraiment embêtants. Donc, on peut avoir des migraines, par exemple, on peut avoir des douleurs intestinales, on peut avoir des flatulences ou avoir une diarrhée qui n'est pas habituelle. Et donc, Ça, c'est lié au fait que notre microbiote, par exemple, ben, on n'a pas tous le même microbiote. Donc, on peut avoir un microbiote qui est plus sensible et qui va réagir de manière un peu plus importante à ce relargage de toxines. Ces effets, en général, ben, sont plutôt temporaires. Mais si, voilà, si on insiste de trop, si on ne fait pas la bonne cure détox, eh bien, on peut avoir des effets à plus ou moins long terme. Et puis, un autre danger, c'est que souvent, on recommande, à juste titre, de boire plus. Et on va éliminer plus, notamment via les reins.
Et si on boit trop, on risque une déminéralisation, c'est ça, hein?
Si on boit vraiment de trop, on va perdre du sodium, on va perdre du potassium, on va perdre du magnésium. Et cette déminéralisation, eh bien, elle n'est pas bonne pour notre organisme. Donc à nouveau, il faut être dans une balance et ne pas suivre une cure détox comme ça sans écouter son corps.
Du coup, si je vous suis, on ne choisit pas n'importe quelle cure détox. Laquelle est-ce qu'il faut privilégier ?
Alors, il n'y a pas qu'une seule cure détox. Donc ça, c'est vraiment très clairement, chacun on est différent. Et donc, on va réagir de manière différente aux plantes ou aux vitamines qu'on peut prendre pour faire cette cure détox.
Le mieux, si on n'a pas l'habitude de faire une cure détox, c'est de se faire accompagner.
Ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, un nutrithérapeute, donc des gens qui connaissent l'utilisation des micronutriments pour aider notre corps à mieux fonctionner. Et donc, ce thérapeute va pouvoir tenir compte de notre terrain et nous dire cette plante-là me semble plus adéquate ou vous prenez ces vitamines. Donc, le conseil est vraiment intéressant.
Pour les personnes qui veulent vraiment se lancer en solo, quels sont les conseils qu'on peut leur donner ?
Si on veut quand même tester soi-même, je pense qu'on peut se tourner vers des plantes qui sont vraiment reconnues pour leur effet qu'on appelle dépuratif, donc qui soutient le foie, comme j'ai déjà parlé, hein, l'artichaut, il y a l'aubier du tilleul aussi qui peut être très intéressant, le romarin. Alors ces plantes, on peut les prendre en tisane. Là, c'est le côté le plus soft. Ça permet à notre corps d'aider notre foie, mais sans qu'on ait des quantités trop importantes de ces molécules qui vont soutenir l'activité du foie. On a aussi la sève de bouleau qui est très connue. Mais même dans ce cas-là, donc même avec ces plantes qu'on peut prendre je dirais steady state, hein, donc tranquillement, mollo, on peut avoir des inconforts. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer la prise. Donc on va diminuer, si on prend 5 tisanes par jour, on en prendra une ou deux. Si on prend des compléments, ce qu'on peut faire, on va diminuer la dose qui est peut-être recommandée. Donc il faut vraiment adapter la cure détox à la manière dont notre corps réagit. Parce que moi, je peux par exemple boire un litre de sève de bouleau, tout va bien se passer. Mais je connais des personnes qui boivent un petit verre d'eau de sève de bouleau et qui ont vraiment des inconforts. Donc, chaque personne est différente et donc, il faut vraiment être attentif à ça.
Il faut apprendre à s'écouter. C'est aussi très important de continuer à s'hydrater pendant cette période de cure.
Tout à fait. La sève de bouleau peut être intéressante pour ça puisqu'elle a les deux effets, d'effet d'hydrater mais aussi d'avoir cet effet détox. Donc il faut bien s'hydrater, pas de trop, donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Et puis il faut s'hydrater, mais il faut aussi adapter son alimentation. Donc on ne va pas continuer à manger beaucoup de viande rouge, des plats très gras, des plats transformés. Si on fait une cure détox, eh bien on aide notre corps à se soulager, à être plus léger. Donc on va se tourner plutôt vers des légumes cuits à la vapeur qui gardent toute leur valeur nutritionnelle. On va se tourner vers des crudités aussi, qui commencent maintenant. Les salades vont commencer à pousser dans le jardin, donc la nature nous dit quoi manger finalement. On va éviter les sucres, on va éviter les excitants comme le café, l'alcool, même certains thés qui peuvent être aussi excitants. Donc en fait, quand on fait une cure détox, il faut prendre ça dans une globalité et pas uniquement prendre une plante ou des compléments.
On voit aussi se multiplier les propositions de stages pour partir jeûner à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le jeûne et la cure détox, c'est très différent. Et d'ailleurs, l'effet sur l'organisme est très différent aussi. Si la cure détox consiste à prendre des plantes pour aider le foie à mieux fonctionner, jeûner, ça veut dire qu'on arrête de manger. Et donc, notre corps, physiologiquement, ne va pas réagir de la même façon. Et pour moi, un jeûne ne se fait que sous surveillance thérapeutique. Parce qu'on va mettre vraiment notre corps en stress puisqu'on ne mange plus. Donc, on va vraiment engager des mécanismes métaboliques qui sont complètement différents. Et donc, ça ne se fait pas comme ça. Il ne faut pas se dire, aujourd'hui, je vais commencer ma cure de jeûne, je vais arrêter de manger pendant 5 ou 6 jours, et puis ça va aller bien, mon corps va être mieux. Non, il faut vraiment préparer son corps à cette absence de nourriture solide.
Concrètement, si on veut faire 5 jours de jeûne, par exemple.
Eh bien, il faut faire une semaine avant ce qu'on appelle une semaine de descente, où peu à peu, on va diminuer la quantité de nourriture solide qu'on va ingérer, augmenter évidemment les légumes, les fruits, etc. La semaine de jeûne, en général, on ne mange pas d'aliments salés, ce sont des jus ou des bouillons qu'on va consommer. Et puis, on a surtout, et ça c'est vraiment important, c'est la période qui va venir après le jeûne, où on va, ce qu'on appelle la remontée, où là, on ne va pas non plus se remettre à manger un steak frites après une semaine de jeûne. Donc ça, c'est pour ça qu'un suivi thérapeutique est important, puisque les thérapeutes, eux, savent ce dont notre corps a besoin. Donc, si on fait ça tout seul, c'est quand même pas recommandé.
Oui, parce qu'on le redit, ça peut vraiment faire des dégâts.
Vous imaginez bien qu'on consomme entre 1500 et 2000 calories par jour. Et on va passer à 200 calories par jour. Donc, notre corps, il doit vraiment s'adapter à ça. Et il y a un autre souci aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont un microbiote, donc une flore intestinale, qui ne supporte pas bien les crudités, les fruits. Et donc, on va se retrouver à consommer des crudités. Et donc, en fait, on peut vraiment avoir des inconforts. On peut provoquer une dysbiose intestinale par un jeûne. Donc, vraiment, une cure de jeûne, c'est un accompagnement thérapeutique.
Et il faut le souligner, là aussi, c'est au cas par cas. C'est comme pour une détox, on fait attention à la personnalité.
Tout à fait, au terrain de la personne. Donc, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de l'état de notre microbiote, ça va dépendre de l'état de notre foie, et puis ça va dépendre de l'état de santé dans lequel on commence le jeûne. Donc oui, et c'est pour ça, il faut un thérapeute pour moi qui suit la personne pour ne pas faire de dégâts.
Est-ce qu'il y a des risques à jeûner?
Alors, si le jeûne est relativement court, donc ici je vous parle de 4-5 jours, il y a peu de risques, mais il y a quand même des risques. Par contre, si ce n'est pas encadré, les personnes sont au départ déjà carencées, par exemple en micronutriments, en protéines, en bons gras, et je pense notamment aux végétaliens qui, en général, ont souvent des carences en protéines s'ils ne font pas attention, qui assimilent moins bien les oméga-3 puisqu'ils ne prennent des oméga-3 que végétaux, et donc ces oméga-3 ne sont pas toujours transformés dans les formes qui sont les formes actives, ça peut vraiment poser des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on n'a aucune protéine qui est apportée par l'alimentation, l'organisme va commencer par brûler les graisses. Mais si on n'a pas de graisse, eh bien, on va s'attaquer aux muscles. Donc, notre corps, lui, doit continuer à fonctionner. Et donc, en fait, on risque vraiment d'aller vers des pertes musculaires qui peuvent être importantes. Et d'autant plus, donc je vous dis, si on est déjà en perte musculaire au départ, donc si on est déjà dénutri, et donc les personnes qui sont plus âgées, après 50 ans, on a une tendance à avoir une perte musculaire, encore une fois aussi plus chez les femmes que chez les hommes, puisque la ménopause induit une perte musculaire. Donc il faut vraiment être très attentif à ça.
Est-ce qu'il y a un bénéfice pour le contrôle du poids? Donc est-ce que le jeûne fait maigrir en fait?
Alors, contrairement à la cure détox, oui, le jeûne fait maigrir. Et si vous arrêtez de manger, vous allez maigrir.
Ça, l'inverse serait inquiétant.
Voilà, exactement. Moins de calories égale moins de poids, une perte de poids. Mais il y a un effet pervers. Et c'est un peu l'effet d'ailleurs qu'on a quand on fait un régime également. Alors, lorsqu'on a des kilos superflus, on va les perdre. On va commencer par perdre la graisse. Mais notre organisme va se mettre en stress. En fait, nous sommes toujours comme les hommes préhistoriques, c'est-à-dire qui vivaient, eux, de vraies périodes de disette. Et donc, le corps s'est adapté à ces périodes de disette en mettant des mécanismes de survie sur pied. Et ces mécanismes de survie sont toujours existants à l'heure actuelle, même s'il n'y a plus ces périodes de disette, en tout cas en Occident. En fait, ce que le corps va faire, il va enclencher des mécanismes de sauvegarde et donc de stockage des molécules qui vont arriver, et particulièrement des molécules de graisse. Donc quand on a fini le jeûne et qu'on se remet à manger normalement, ce que le corps va faire, c'est « Ouh là là, je ne consomme pas ça pour mon énergie quotidienne, je le stocke ». Donc on va en fait reconstituer très très rapidement un stock de graisse après un jeûne ou après un régime qui n'est pas bien équilibré. Donc on va reprendre de la graisse et on risque de ne pas reconstituer nos muscles comme ils étaient avant de jeûner. Donc on a deux choses, c'est l'effet yo-yo en fait, c'est exactement ça. Et donc on va reprendre plus de poids qu'on avait avant parce qu'on va accumuler plus de graisse. avec un risque de sarcopénie, puisqu'on perd du muscle.
La sarcopénie, qui est ?
La sarcopénie, c'est le fait de perdre, d'avoir une perte musculaire importante. Et donc, ça vient en général avec l'âge ou lorsqu'on est dénutre.
Comme ça, on le sait, on aura appris un mot supplémentaire. On parle aussi beaucoup du jeûne intermittent.
Le jeûne intermittent est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que le jeûne intermittent ? C'est le fait de ne pas faire un jeûne sur plusieurs jours, mais par exemple, de décider de ne pas manger un ou deux jours sur la semaine, et ça de manière régulière. Il y a une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle le fasting ou le 16-8. Donc, c'est sur une journée, ne faire que deux repas. Et il faut qu'entre deux repas, il y ait au moins 16 heures pour permettre en fait à notre organisme de digérer complètement tout ce qu'on mange et donc de mieux fonctionner. Donc ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a deux manières de faire. Soit on fait un brunch, donc on ne fait pas de petit-déj, on fait un brunch vers 11h et puis on mange le soir ou en fin de journée vers 18h30, 19h, ce qui permet effectivement d'avoir environ ces 16 heures entre le repas du soir et le brunch suivant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est petit-déjeuner, manger à midi et puis ne rien manger le soir, ce qui permet effectivement d'alléger vraiment notre corps avant d'aller dormir et donc de mieux récupérer.
C'est une formule que vous validez ?
Franchement, c'est un système qui fonctionne bien. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas avoir faim. Parce que si on a faim, eh bien, on va se mettre à grignoter et en fait, là, tout le bénéfice qu'on peut avoir de ce jeûne intermittent, bah, il sera perdu et du coup, on déséquilibre complètement notre organisme. Donc, si on ne grignote pas, le jeûne intermittent, c'est une bonne solution.
Et ce jeûne intermittent n'induit pas le stress qu'on évoquait pour le jeûne total avant.
Effectivement, puisqu'on ne met jamais finalement notre corps dans une situation où il se dit « Ouh, j'ai plus rien à manger ». En fait, ce stress commence après, si je me souviens bien, 24 heures sans apport de nourriture. Et donc, on augmente évidemment ce stress physique, métabolique, au fur et à mesure des jours où on ne mange pas.
Vous avez mentionné la sève de bouleau tout à l'heure.
Bah, il y en a ici, est-ce que vous voulez
en goûter ? Allez, on va la goûter. C'est gentil de nous faire découvrir les produits comme ça. Vous voulez un petit verre aussi ?
Je veux bien.
C'est super frais en fait.
Tout à fait.
Et alors on a tendance à dire que ça n'a pas vraiment de goût. Moi je trouve qu'il y a quand même un petit goût végétal.
C'est un petit goût végétal. Alors c'est pas très marqué, mais je trouve que c'est un goût végétal qui est très agréable.
Qui est très agréable, tout à fait.
Et c'est un peu comme les différentes eaux minérales qu'on peut boire. Bah, elles ont toutes un petit goût différent. Bah, ça vient du fait que l'arbre... ici, va puiser la terre d'un terrain bien particulier, donc il y a une minéralité bien particulière, et donc ça va donner forcément un petit goût à l'eau ou à la sève de bouleau. Et en plus de ça, dans la sève de bouleau, il y a d'autres molécules qui sont aussi aromatiques et qui peuvent donner ce petit goût qui est pour moi très agréable.
Donc il y a plusieurs bénéfices qui sont bien réels dans la consommation de la sève de bouleau.
La sève de bouleau, c'est une source naturelle d'eau qui est pure puisqu'elle est filtrée par l'arbre, donc elle est puisée dans le sol et l'arbre agit réellement comme un filtre et ça contient des nutriments puisque l'arbre va devoir rejaillir au printemps, donc elle a besoin de cette énergie et c'est la sève qui l'apporte. Il faut savoir aussi que cette sève, elle est consommée depuis des siècles dans les pays du Nord, en Finlande, dans les pays baltes, etc. et qu'elle est réellement considérée traditionnellement non seulement comme un apport énergétique intéressant, mais aussi, vital, plutôt pas énergétique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories dans la sève, mais c'est plutôt un élément vital. Mais aussi, elle était utilisée à des fins thérapeutiques, puisqu'elle était recommandée en cas de problème hépatique, en cas de maladie rénale ou gastro-intestinale, mais aussi pour soutenir l'immunité lorsqu'on avait un rhume, par exemple.
Et alors, on en parlait tout à l'heure, boire de la sève de bouleau, ça peut aussi aider à maintenir une bonne hydratation.
Tout à fait, puisque dans la sève de bouleau, on va retrouver les minéraux essentiels comme du potassium, du sodium, du magnésium, même du fer. Donc c'est vraiment assez riche et ça permet en douceur de se reminéraliser et de s'hydrater. Donc au printemps, de nouveau, cure de détox, la sève de bouleau, c'est un peu le deux en un où on a le côté détox et on a le côté hydratation, reminéralisation.
On le dit souvent dans ce podcast, en fait, il suffit de regarder autour de soi et de suivre l'environnement. Cette sève de bouleau, alors elle se vend dans les magasins, BeLife a sa propre sève de bouleau, mais on peut aussi la récolter soi-même.
Tout à fait, si l'on a un bouleau dans son jardin ou dans un petit endroit qui est boisé, c'est assez facile en fait de le récolter. Il suffit de percer l'écorce sur 2-3 cm, donc on peut faire ça avec une perceuse, soit une perceuse à la main, soit une perceuse électrique. on met un tuyau dans ce trou et en fait, la sève va sortir toute seule. Il suffit donc de mettre une bouteille ou un récipient à la sortie du tuyau et ça se remplit. À cette époque-ci, ça se remplit extrêmement vite. Il faut savoir qu'on peut récolter plusieurs litres de sève sur une heure. Donc, c'est vraiment incroyable.
Ah oui?
Oui, il faut savoir que par heure, en fait, il y a des centaines de litres qui vont monter jusqu'à la cime de l'arbre. Donc, c'est absolument incroyable. Et en plus de ça, si on récolte quelques litres, on ne fait pas de mal à l'arbre. Hein. Donc, on ne l'empêche pas de continuer sa croissance et de renaître après l'hiver. Donc, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça.
Et est-ce qu'il faut regarder à l'âge, entre guillemets, de l'arbre? On privilégie l'arbre plus âgé que le plus jeune, peut-être?
Alors, on privilégie l'arbre entre les deux. Un petit arbre, et voilà, il aura moins de sève qui monte et puis il a aussi besoin de croître plus. Donc,
on ne va pas le déforcer?
Voilà, on ne va pas le déforcer. Par contre, un arbre qui est trop vieux, l'écorce devient dure. Donc, ça devient aussi plus difficile de récolter la sève. Et comme pour nous, en fait, il y a moins de sève qui monte dans les arbres qui sont plus vieux. Le métabolisme de l'arbre est plus lent, exactement comme pour nous. Donc, c'est pour ça, un arbre qui a, à partir de, 4-5 ans, jusqu'à une dizaine d'années, encore une fois, ça dépend de l'arbre, ça dépend, il y a plusieurs paramètres, mais en tout cas, c'est clair qu'un tout petit boulot chétif, on n'y touche pas, et un énorme boulot, on le laisse aussi bien en paix.
Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité et de la pureté de la sève qu'on récolte si on le fait soi-même ?
La qualité du terrain sur lequel pousse l'arbre est évidemment très importante, puisque si on est sur un sol pollué, malheureusement, on risque d'avoir des molécules chimiques qui se mêlent malheureusement à la sève. Même si l'arbre a une grande capacité de filtration, l'arbre ne s'empoisonne pas, mais malgré tout, il y a un risque plus important. Et je pense malheureusement aux pesticides ou aux métaux lourds qui sont très souvent des polluants qu'on va retrouver dans la terre. Donc, n'allez pas récolter votre sève sur un bouleau qui pousse à côté d'un champ qui est cultivé de manière conventionnelle où on va malheureusement épandre des pesticides et d'autres produits chimiques qui ne sont pas très sympas à boire, en tout cas, ça c'est clair.
On peut la filtrer aussi éventuellement?
Alors on peut la filtrer, mais ça veut dire qu'on ne va pas éliminer s'il y a des métaux lourds ou des pesticides.
Ça
ne partira pas. Par contre, s'il y a des débris, donc ce qui peut arriver, s'il y a des débris dans la sève, il suffit de la filtrer avec une étamine ou un simple filtre. Donc ça permet effectivement d'avoir une sève bien claire, bien pure.
On peut aussi trouver des plantes dans son jardin, dans son environnement direct. Là, on parle de la sève de bouleau. Alors, il faut avoir un bouleau chez soi, certes, ou dans son environnement proche. Mais je suppose qu'il y a d'autres plantes qu'on peut aussi trouver et dont on peut se servir pendant cette période de détox.
La nature est faite de manière magnifique. Et donc, à cette époque-ci, maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a effectivement des plantes dans notre jardin, dans notre environnement direct, qui ont aussi un effet de détox ou en tout cas d'aider notre corps à récupérer une énergie vitale plus importante. Et la plante dont tout le monde parle depuis quelques années, c'est forcément l'ail des ours. L'ail des ours a un regain de popularité.
Un petit pesto.
Voilà. Et donc, c'est très facile à faire. En fait, c'est une plante dont on peut utiliser quasi toutes les parties, puisque les feuilles, on peut en faire des pestos. Très simple, on prend des feuilles, on met de l'huile d'olive, on rajoute des noix, donc ce que vous voulez, on peut rajouter des tomates séchées. Votre pesto, il est fait, et ça tient plusieurs semaines au frigo sans aucun problème. Ça peut accompagner tout ce que vous voulez, des pâtes, servir de sauce, vraiment c'est extraordinaire. Mais on peut aussi utiliser les fleurs, donc les fleurs sont comestibles. Et on peut utiliser les graines comme poivre. Donc, au mois de mai, donc là c'est un peu plus tard, mais au mois de mai, vous pouvez récolter les graines de l'ail des ours, les mettre dans un poivrier et ça va avoir exactement, ça va avoir un goût un peu piquant. Donc c'est très agréable comme condiment. On l'oublie souvent, mais franchement, on peut tout utiliser à l'ail des ours.
Plantez-en dans votre jardin. On peut aussi utiliser l'ortie, qui est une source incroyable de micronutriments, il me semble.
L'ortie, alors on ne l'aime pas trop dans les jardins parce que ça pique, ça se répand facilement, mais c'est un trésor absolument incroyable pour notre organisme et c'est gratuit. Donc l'ortie a effectivement des propriétés reminéralisantes, notamment ça contient du silicium, donc on a des artères un peu rouillée, l'ortie peut combler le manque en silicium, en tout cas. Ça contient également du fer. C'est extrêmement riche en protéines. Donc, c'est vraiment un aliment qui a vraiment énormément de densité nutritionnelle. Et donc, on peut là aussi le faire à toutes les sauces. On peut même l'apprendre à manger cru. Bon, ça pique un peu, j'ai essayé, c'est vraiment pas facile. Voilà, moi, ce que je fais en général, c'est que je la blanchis et puis je l'utilise dans des soupes, dans des sauces. Dans, on peut l'ajouter à son pain ou faire un cake aux orties, donc là, ou une tarte aux orties. Donc, il y a aussi, avec un peu d'imagination, c'est vraiment un aliment qui est très, très intéressant et qui n'est pas cher du tout. Donc, moi, si vous, je vous conseille, si vous avez un jardin, de garder un petit coin avec des orties et de l'utiliser. Alors, jusqu'au mois de... Je dirais mi-avril, parce qu'après, elle devient dure, elle est très fibreuse, donc elle est moins agréable à manger.
Et de nouveau, au risque de se répéter, ces plantes, on les cultive et on les récolte sur un terrain qui est adéquat, évidemment.
Tout à fait, surtout les orties, hein, il faut vraiment faire attention de ne pas être à côté d'un champ qui est arrosé de pesticides. Et donc, c'est pour ça que je conseille d'avoir son petit champ d'orties personnel.
Et on fait aussi attention à l'ail des ours, qu'il ne faut pas confondre avec le muguet.
Tout à fait. Donc, l'ail des ours et le muguet ont des feuilles qui sont très semblables. Alors, il y a deux manières de les distinguer. C'est déjà la période à laquelle chaque plante pousse. L'ail des ours, c'est maintenant. Donc, on va vraiment sortir les feuilles maintenant. Le muguet, c'est un peu plus tard. Et puis, c'est l'odeur. Si vous cueillez une feuille et qu'elle ne sent pas l'ail, c'est que c'est du muguet, donc surtout on ne consomme pas parce que réellement il y a un danger. Donc,
c'est un poison.
C'est un poison, donc les toxines que contient le muguet peuvent effectivement nous mettre très à mal, donc il faut faire attention.
Si on se lance dans une cure détox, est-ce que ça vaut la peine de se complémenter pour aider sa fonction hépatique?
Les compléments peuvent être intéressants puisque les plantes que j'ai citées se retrouvent de manière très régulière dans des compléments alimentaires. Alors, l'intérêt d'une cure détox, c'est finalement d'avoir des bons dosages. Enfin bon, si les produits sont bien faits, on a le bon dosage. Et donc, de pouvoir faire une cure détox en un temps assez court, généralement 2 ou 3 semaines, et d'avoir un effet notable. Donc, on peut réellement voir, par exemple, qu'on a le teint plus frais, qu'on se sent avec plus d'énergie. Donc, il y a vraiment un intérêt à se complémenter. Alors, chez BeLive, par exemple, nous proposons un produit qui s'appelle Phytodrain, qui va contenir de l'artichaut, du curcuma, de l'oblier, du tilleul, mais aussi certaines vitamines et certaines molécules soufrées qui vont vraiment compléter l'action de ces plantes. Donc, c'est aussi l'intérêt d'un complément, c'est finalement de ne pas avoir que des plantes, mais aussi d'autres micronutriments intéressants.
Et il y a aussi la fameuse sève de bouleau qu'on vient de goûter.
La sève de bouleau que nous proposons chez BeLive est vraiment une sève qui est totalement pure, donc elle provient des forêts du nord de la Finlande et elles sont récoltées sans qu'il y ait de contact avec l'air, donc vraiment de l'arbre à la bouteille avec un contact minimum avec l'air, ce qui permet d'avoir une sève dans une bouteille mais qui est exactement la même que celle qu'on pourrait récolter soi-même. Donc on peut combiner les deux, donc on peut combiner un complément alimentaire avec des plantes et des vitamines avec cette sève de bouleau. Alors regardez comment votre corps réagit.
J'allais le souligner. On peut de nouveau faire attention aux signaux.
Oui, tout à fait, aux signaux. Et c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment très important de faire attention aux signaux. Et puis, il y a quand même quelque chose qui doit accompagner ça. C'est qu'on ne fait pas, je me répète, mais on ne fait pas une cure avec des compléments alimentaires sans faire attention à son alimentation et sans faire attention à son état physique de manière générale. Et même psychologique, il faut savoir qu'une cure détox peut aussi avoir un effet tout à fait positif sur notre humeur, puisque notre foie va aussi générer, si on est surchargé, si ça ne va pas, eh bien, on peut avoir des effets sur l'humeur. Donc l'inverse, si on décharge, on peut être de bien meilleure humeur.
Tout à fait. On dit que le foie, c'est l'organe de la colère, pour ceux qui ne le savent
plus.
Pas. Quels sont les résultats qu'on peut attendre d'une détox combinée à la prise de compléments alimentaires? Du coup, dans quel délai est-ce qu'on peut voir apparaître les effets ou les résultats?
En général, on recommande de faire une cure de 3 semaines en augmentant progressivement la quantité de compléments alimentaires qu'on prend. Donc toujours pour la même chose, pour éviter d'avoir des effets indésirables. Et donc, normalement, en 3 semaines, on peut déjà vraiment voir des effets. Mais, donc, comme je viens de vous le dire, on fait attention à ce qu'on mange, on mange plus léger. Et puis, on va faire de l'exercice. Vous avez vu le soleil qui peut faire là au moment du printemps. Donc, vraiment, allez-y, faites cette cure détox, mais allez vous aérer, allez faire plus d'exercice, redonnez à votre corps cette énergie parce qu'en fait, ce que fait une cure détox, c'est redonner de l'énergie pour que l'on puisse tout à fait bénéficier de cette énergie absolument incroyable du printemps.
On terminera sur ce bon conseil. Vous pouvez directement aller mettre vos chaussures de marche et prendre un petit coup de frais. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Bee Life Talk. Pour patienter jusque-là, je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à aller les découvrir ou les redécouvrir. Vous pouvez les commenter, les noter aussi. Un petit coup de boost, c'est toujours bienvenu. Si vous souhaitez avoir d'autres informations concernant la détox, notamment, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Bee Life. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Prenez autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres.